Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, dans une émission de Sortir du capitalisme autour du traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations de Raoul Van Eghem. Et nous sommes toujours avec notre invité Pierre-Ulysse Baranque, doctorant et co-directeur d'In-Situ, théorie, spectacle et cinéma chez Guy Debord et Raoul Van Eghem, paru aux éditions Gruppen en 2013. Et dans une première partie, on a donc parlé du contexte de l'écriture de cet ouvrage et de sa réception, notamment en mai 68. Et on a parlé de la critique de Van Eghem à la fois des courants pseudo-révolutionnaires comme le marxisme, le trotskisme, le castrisme, et surtout de sa critique du travail et de la société marchande. Et maintenant, on va passer, puisque c'est une partie qui était relativement commune, disons, au mouvement situationniste et dont on a déjà parlé dans notre émission sur de la misère en milieu étudiant avec Sylvain de Zone Subversive. Et donc là, on va passer à une partie qui est peut-être encore plus originale chez Raoul Van Eghem, même si sa critique du capitalisme est quand même un peu différente de celle de Debord ou des autres situationnistes. Mais là, on va passer peut-être une partie où il est encore plus original, disons, qui est sa partie sur la révolution des subjectivités, les subjectivités révolutionnaires. Et donc, c'est Pierre-Ulysse qui va nous en parler, puisque c'est une partie qui est moins évoquée dans un ouvrage que je recommande vivement à la lecture, qui s'appelle « De la grève sauvage à l'autogestion généralisée », et qui, là, est un peu plus sur la critique du capitalisme et des perspectives extrêmement pratiques d'organisation, d'auto-organisation.
Oui, c'est peut-être le moment où Van Eghem est véritablement Van Eghemien, si on peut le dire ainsi, et qui fait écho, de toute façon, au titre du livre lui-même, sur lequel je reviens une fois de plus, « Traité de savoir-vivre ». Il s'agit de savoir-vivre, de quelle vie faut-il vivre. Cette question de la vie, d'une insurrection des vies, qui est aussi une insurrection du désir chez Van Eghem, est vraiment au cœur de sa pensée. Et à l'époque, ça c'est aussi une chose que j'ai un petit peu observé en travaillant sur les archives de 68, l'image qu'on a un petit peu de Debord et Van Eghem, c'est que Debord c'est le théoricien du spectacle, Van Eghem c'est le théoricien de la subjectivité radicale, comme si chacun avait son concept, Debord qui est dans la macro-analyse de l'aliénation sociale, et Van Eghem lui dans la micro-analyse de la subjectivité rebelle. Ce que lui, il appelle la subjectivité radicale, radicale au sens étymologique, hein, c'est une subjectivité à la racine d'elle-même, et donc ce retour à la racine de la subjectivité et de sa constitution en tant que sujet désirant, en fait, va être, selon Van Eghem, l'arme dont va devoir utiliser les révolutionnaires, à la fois individuellement et collectivement, contre l'aliénation capitaliste. Ça, c'est vraiment un point fondamental de Van Eghem, là aussi qui va en inspirer d'autres, hein, puisqu'on pense à toute la théorie du désir de Deleuze à partir de l'anti-Œdipe, mais c'est déjà évidemment chez Van Eghem. Et pour les gens qui ont fait 68, pour les militants hein, du mois de mai, quand on parle d'insurrection du désir, on pense plutôt à Van Eghem. Et sur cet aspect-là, il y a une réflexion tout à fait intéressante qui commence d'abord sur son analyse de ce qu'a produit la société de consommation sur les subjectivités des gens des années 60. C'est un concept qui, à ma connaissance, il reprend à le faire, mais en le transformant, qui est le concept de rôle, qui est très présent. Il y a un chapitre précis sur ce concept-là, une critique du rôle. L'idée qu'il y a chez Van Eghem avec le concept de rôle, c'est que finalement, de même qu'il y a une division du travail dans l'usine, de même qu'il y a un fordisme qui sépare les tâches et fait de l'activité unitaire de l'ouvrier un ensemble de moments parcellaires et répétitifs, dans la société de consommation, cet aspect partiel, répétitif, cet aspect d'automatisme de la société industrielle s'élargit à l'ensemble de la société, puisque dans chacun des moments du processus de production et de consommation, que ce soit le moment du travail ou le moment de la consommation, l'aspect partiel hein, de la productivité capitaliste va être incorporé par les différents consommateurs, par exemple de la société française des années 60. Autrement dit, Le moment de séparation entre soi et soi-même et entre soi et les autres, la séparation est un concept central dans la philosophie de Debord, elle est également dans la philosophie de Van Hegem. Ce moment de séparation n'est plus seulement une séparation au travail, ou dans le travail, ou dans le moment où on travaille, mais voilà, va se répandre dans l'ensemble de la société et va déterminer, va conduire les gens à adopter des rôles qui sont évidemment les différents rôles qui permettent à la société capitaliste de se perpétuer. C'est vraiment l'accent sur lequel Van Hegem analyse voilà, ce phénomène. Il y a donc finalement comme sorte de fordisme du système social général. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un traité de savoir-vivre, de retrouver une certaine vie pour en perdre une qui a été falsifiée. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que finalement, là, il y aurait des rapprochements très riches à faire avec par exemple le travail de Marcel Mauss sur les techniques du corps. Marcel Mauss, ethnologue, qui étudiait les techniques du corps des peuples extra-européens, en montrant qu'on n'utilise pas son corps de la même façon si on est un aborigène australien, un mexicain maya ou un français européen, qu'une culture, une civilisation, c'est aussi une culture qui s'incorpore chez les individus. De même, il y a des techniques du corps du capitalisme, qu'on n'appellera pas des techniques du corps d'une nouvelle civilisation, parce qu'on a plutôt l'impression que c'est une nouvelle barbarie, mais il y a un façonnage des corps, une détermination à même les corps du capitalisme, et ces corps façonnés en vue produire les réflexes de reproduction du capitalisme, c'est ce que Van Hegem va appeler justement les rôles. Et là aussi, c'est très intéressant parce qu'en amont, on pense à Mauss, et en aval, on peut voir une version peut-être un peu plus révolutionnaire et un peu plus matérialiste de ce qui sera développé avec le concept d'habitus, par exemple chez Bourdieu.
Oui, c'est intéressant cette critique des rôles chez Van Hegem, parce qu'elle fait beaucoup penser à la notion de masque de caractère chez Marx, c'est-à-dire c'est une expression que Marx utilise dans Le Capital, livre 1, pour dire que finalement les travailleurs individuels ne sont que la personnification du travail. Lorsque des individus, des subjectivités vivantes vont au travail, elles se mettent une espèce de masque, qui est le masque du travailleur, et qui va faire qu'elles vont devenir voilà, des machines, des robots, puisque le robot, ça vient du travailleur en tchèque, et vraiment, on voit que ces masques de caractère sont un peu comme dans l'image du film The Mask, c'est quelque chose qui colle à la peau, et finalement, les rôles d'extérieur aux individus et d'imposer par la société. Et là, la critique des rôles de Van Hegem, elle est totale et elle est très forte. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la critique du rôle de travailleur ou de consommateur, c'est aussi celui de mari, voilà, tous les rôles sociaux de père paternaliste, de l'enfant, de la femme, enfin tous les rôles sociaux qui sont considérés comme aliénants.
Du teenager aussi. Une première analyse du concept, le rôle de teenager, le consommateur adolescent qui apparaît dans les années 60 avec voilà, la culture yéyé, les jeans, etc. Qu'on trouve déjà, qu'on trouve également dans les années 70-80, mais qui en fait est déjà évidemment chez Van Hegem.
Et finalement, la critique de la misère en milieu étudiant, c'est une critique pas tellement des individus qui font des études, mais encore une fois, une critique du rôle d'étudiant qui est celui qui se prédestine à devenir un bon petit cadre de la société capitaliste en voie de modernisation. Et dans cette critique des rôles, qui est aussi une critique des séparations, comme tu l'as dit, même si j'ai trouvé que Van Hegem est assez ambigu sur, par exemple, sur la question du patriarcat ou du racisme, parce que, bon, évidemment, il condamne le patriarcat et le racisme, mais en même temps, il renvoie quand même les mouvements d'émancipation des femmes ou des racisés à quelque chose qui est un peu séparé et réformiste, et il faut au contraire un mouvement global. Bon, c'est un peu ambigu là-dessus, mais ce que je trouve en tout cas intéressant, c'est que dans sa critique des séparations, ça c'est à la fin notamment de la grève sauvage à l'autogestion généralisée, il pourrait y avoir en fait une critique, enfin, dans sa critique de toutes les séparations, il dit critique des séparations en termes d'âge, de sexe, il n'y a pas le concept de genre à l'époque. Et finalement, en poussant Van Hegem jusqu'au bout, on pourrait y trouver, dans sa critique radicale des rôles et des séparations, une critique voilà, de la société de genre, du racisme structurel, etc.
Là où je me permettrais de faire un bémol peut-être sur ce que tu viens d'affirmer, alors sur la critique du patriarcat, c'est très très présent dans l'œuvre tardive, hein, on va dire. Je pense notamment à Nous qui désirons sans fin, qui est un excellent livre des années 2000. Pour le coup, entre autres dans ce livre-là, mais dans beaucoup d'autres, la critique du patriarcat est très très claire. Et même, on pourrait presque y voir là encore un rapprochement avec Breton, hein, puisqu'il y a toute une réflexion sur l'idée d'une civilisation féminine sous-jacente telle qu'André Breton le développe dans Arcane 17, par exemple. Encore une influence entre Breton et Van Hegem. Et sur le racisme, là aussi, je mettrais un bémol. Ça, c'est quelque chose qui est peu connu aussi, mais qui participe de la belgitude de Van Hegem. Et qui était présent chez les Citunes de façon générale, c'est que voilà, en tant que Belge, il était très proche des mouvements décoloniaux indépendantistes congolais, notamment des moulélistes, qui étaient les plus radicaux, encore plus radicaux que Lumumba. Il y a des textes, y compris de Debord, là-dessus. Et il a été voilà, en solidarité claire et effective du côté de la métropole. De même qu'il y a eu voilà, un mouvement de soutien à l'indépendance algérienne en France, il y a eu un mouvement de soutien belge à l'indépendance congolaise. Van Hegem en faisait partie, et faisait partie de ceux qui, évidemment, voulaient faire cette indépendance une révolution véritable. Mais bon, le danger d'une récupération réformiste, elle est évidemment dans tous les secteurs de la société.
En fait, pour préciser un petit peu l'idée que j'en avais, c'est clair que chez les situationnistes, il y a une critique extrêmement forte, par exemple, du colonialisme ou du patriarcat au sens de la domination des pères. Ça, c'est clair. Bon, notamment, je pense à la chanson sur la Java des bons enfants où il dit plus de patrie, plus de colonie. Donc, c'est quand même assez clair. Puis il y a aussi le texte de l'international situationniste sur les émeutes de Watts
Bien
en
sûr, Van
1965.
Hegem cite plusieurs fois dans l'ouvrage.
Et en fait, c'était plutôt le fait que, en tout cas, peut-être sur la question du patriarcat, il y avait ou même sur la question du front homosexuel d'action révolutionnaire, Van Hegem, dans son texte en
Ah oui?
1974, peut-être bizarrement, mais dit attention, si ça reste des. Et je pense qu'il, en fait, à la fois, il a raison et il a tort. Il dit si ça reste des critiques séparées, c'est-à-dire une critique séparée du patriarcat du point de vue des femmes et une critique séparée. De l'hétéronormativité ou du patriarcat hétérosexuel du point de vue des homosexuels révolutionnaires du phare, et ben du coup forcément ça sera réformiste et ça légitimera les oppressions. Et là où il a raison, c'est que si ça reste des critiques qui par exemple sur le plan si sur ce plan ils sont radicaux, mais sur les autres plans ils sont réformistes, effectivement globalement ils sont réformistes. Là, je suis complètement d'accord avec Van Hegem et même avec la critique situationniste des mouvements partiels. Par contre, là, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de dire que ce serait nécessairement réformiste. C'est-à-dire, on peut très bien avoir un mouvement antiraciste qui est radical sur les autres plans aussi, mais qui, bah, de par peut-être la position sociale de ses membres, se lutte peut-être d'abord contre le racisme. Et par exemple, le reproche fait au Front homosexuel d'action révolutionnaire, il y avait beaucoup de gens qui étaient influencés par les situs dans le Front
Bien
homosexuel
sûr.
d'action révolutionnaire, et dans la mesure où ils étaient situs et en même temps au phare, on voit mal en quoi est-ce qu'ils pouvaient être réformistes. Donc je sais pas si tu vois un petit peu plus
Oui.
la critique que...
Après, c'est aussi peut-être, tu sais, dans le contexte de la critique des ex-situationnistes sur ce qu'ils appellent les prostituées. Bon, là, il y avait un peu une guerre qui, a posteriori, paraît puérile. Plus révolutionnaire que moi, tu meurs, quoi.
Oui.
Est-ce que Van Hegem a été un peu dans ça? Là, il faudrait revenir sur le texte et je ne l'ai pas en mémoire. Sur la question, pour revenir sur la question du concept de rôle et de la critique qu'il en fait, c'est vraiment par ce chemin-là qu'il va développer cette réflexion sur les, voilà, les subjectivités révolutionnaires, les subjectivités radicales, dissidentes, et qui, une fois de plus, là, c'est un lien avec un autre auteur dont on a parlé précédemment, entre en écho avec le travail d'Henri Lefebvre, qui a publié quelques années avant la critique de la vie quotidienne. Pour les situationnistes, s'il y a une révolution à faire, c'est la révolution de la vie quotidienne elle-même, une révolution immédiate. Il y a vraiment un aspect immanent, voire immanentiste, hein, de la critique situationniste. Il ne faut pas changer tel aspect partiel de la société, tel aspect politique, tel aspect économique. C'est la société dans son ensemble, et immédiatement, qu'il faut révolutionner. Et selon Van Eghem, l'arme, hein, et en même temps le chemin par lequel cette révolution va s'accomplir, c'est l'attention aux subjectivités désirantes. Il écrit par exemple « Avec quelle amère facilité on abandonne un désir, une pension, la part essentielle de soi. Dans la grève pour l'augmentation de salaire, dans l'émeute, n'est-ce pas l'esprit de fête qui s'éveille et prend consistance ? À l'heure où j'écris, des milliers de travailleurs débraient ou prennent les armes, et au fond, c'est à changer l'emploi de leur vie qu'ils s'appliquent passionnément. » Autrement dit, même dans des mouvements, comme il a vu dans le mouvement belge, qui peuvent commencer d'abord sur un aspect peut-être réformiste, etc., ce qu'il y a derrière, c'est ce qui a radicalisé, justement, c'est cette critique générale de la société, cet emploi de la vie dont il parle, et qu'il faut entièrement passionné et révolutionné. Là aussi, l'écho avec les surréalistes est présent, puisque au début de l'ouvrage, il reprend la formule de Breton sans la citer, sans donner la référence, hein, à la fois la 11e thèse sur Feuerbach, il faut pas seulement interpréter différemment le monde avec les différentes philosophies, mais ce qu'il faut, c'est de le transformer d'une part et le changer la vie, hein, de Rimbaud, qui était au cœur du manifeste surréaliste, hein, la fusion entre Marx et Rimbaud. Van Eghem la cite dès le début, c'est une certaine manière de montrer dans quelle perspective théorique on se trouve. Et l'idée qui a beaucoup séduit avec le traité de savoir-vivre, dans cette année 68 où il a été largement lu, diffusé et commenté, c'est l'idée que la question de la révolution se passe dans la vie quotidienne, donc elle se passe directement dans ma vie immédiate, dans ma vie personnelle, dans la vie avec mes proches. C'est-à-dire ce n'est pas un phénomène qu'il faudrait repousser au calende grec, ce n'est pas une fin de l'histoire ou une perspective, un horizon infini. La question de la révolution et la question du communisme se pose dans l'immanence même de nos existences. Donc le lieu de la révolution, s'il y a un lieu de guérilla à mener, il n'est pas dans certains pays très lointains qui étaient fantasmés à cette époque-là par une partie du gauchisme, il est dans nos existences directes. Donc le lieu de la guérilla, c'est nos vies immédiates. Ça, c'est vraiment, je pense, l'argument qui a séduit beaucoup de lecteurs de Van Eghem en 68. Et ça va être le premier élément qui va amener le concept de subjectivité radicale.
Et ce qui est intéressant, justement, chez Van Eghem, c'est là où ça tranche complètement avec ce qu'on a aujourd'hui, c'est que Van Eghem arrive à penser à la fois une transformation des subjectivités localisées qui se situent dans la vie quotidienne, presque ici et maintenant, tout en étant toujours un partisan d'une rupture révolutionnaire radicale. C'est-à-dire qu'il tranche complètement avec aujourd'hui les oppositions. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir avec le développement personnel ou des choses comme ça.
Certes pas.
Voilà. Ou avec, disons, un militantisme qui attendrait ou au contraire, un militantisme qui attendrait le grand soir et qui, en attendant, ne chercherait pas à transformer déjà les rapports de la vie quotidienne. Chez Van Eghem et plus généralement chez les situationnistes, il y a cette idée qu'il faut à la fois transformer la vie quotidienne ici et maintenant, mais dans une perspective d'une rupture radicale qui permettra, en réalité, qui en sera le prolongement, même si c'est un prolongement évidemment sous une forme complètement différente, qui permettra de donner à cette transformation de la vie quotidienne toute son ampleur. Parce qu'évidemment, on peut commencer à transformer la vie quotidienne dans le cadre de la société capitaliste, patriarcale, etc. Mais on peut le faire quand même de manière relativement limitée, ou dans des espaces relativement limités, avec des contraintes, etc. Et justement, le but de la révolution, et qui est en même temps son moyen, parce que ça c'est très intéressant chez Van Engem, c'est justement de transformer radicalement la vie, et donc d'abolir le travail, les contraintes sociales, l'État comme organisation séparée de la vie sociale, etc. Et d'ailleurs, une dernière chose, c'est que finalement, dans l'idée de révolution de Van Engem, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient pas d'accord avec moi, mais je trouve que Van Engem, même si, évidemment, il n'a pas complètement dépassé cette opposition entre le communisme et la révolution, dépassement qu'on retrouve dans la théorie de la communisation, il pense quand même déjà le fait que la révolution passe déjà par la transformation des rapports sociaux. Et c'est pas d'abord on fait la révolution avec une organisation hyper militaire, hiérarchisée et tout ça, et ensuite on fera le communisme. C'est déjà en fait en créant le communisme au cours de la révolution que justement les gens auront envie d'aller plus loin dans cette révolution. Et ça c'est très clair dans son ouvrage de la grève sauvage à l'autogestion généralisée. Et ça je trouve que c'est vraiment une idée très intéressante dont on devrait s'inspirer aujourd'hui. Et d'ailleurs il critique toute l'idéologie du sacrifice militant, tout en restant, c'est pas non plus, enfin son livre en tout cas, de la grève sauvage à l'autogestion généralisée, c'est pas non plus un ouvrage de on va lire des bouquins sur la plage et la révolution va se faire. C'est au contraire, c'est
là plutôt... aussi certainement pas.
Voilà, et je trouve qu'il arrive à dépasser cette fausse opposition. Enfin, il arrive à n'être ni dans le camp du révolutionnarisme sérieux, du sacrifice militant et tout ça, finalement, qui n'aboutit à rien, si ce n'est à recréer des sociétés bureaucratiques, hiérarchisées et tout ça, ni dans un truc un peu hippie de « on change la vie ici maintenant, c'est cool et on fait rien ».
Oui, alors déjà, sacrifice militant, c'est sûr que c'est pas la tasse de thé de Van Engem. Van Engem, là aussi, est un reichien, hein, dans une émission précédente. Donc, c'est certainement pas sur des émotions masochistes qu'on va créer l'égalité et la liberté pour tous. Ça, c'est sûr. Pas plus, d'ailleurs, que sur des affects sadiques. Il y a une critique, d'ailleurs, du masochisme militant dans l'ouvrage qui est tout à fait importante et qu'il faudrait rappeler peut-être de nos jours. C'est aussi un des aspects qui est parfois, je trouve, minoré chez les situationnistes. On met l'accent de manière très insistante, évidemment, sur l'influence du marxisme hétérodoxe, sur Debord, etc. Puisque il suffit d'ouvrir la Société du spectacle et voir que c'est écrit et dans le concept et dans le style d'une manière hegélienne, hegélo-marxiste. Mais on oublie aussi que les situs ont vraiment repris pour eux la tradition libertaire, la tradition anarchiste. Ils se revendiquent des deux, ils jouent pas l'un contre l'autre, ils prennent ce qu'il y a de meilleur chez les deux. Évidemment, voilà, toute la pensée libertaire, notamment par exemple de Bakounine, est reprise et par Debord et par Van Engem. Il y a des passages du livre où on a l'impression presque de lire à un certain moment Bakounine, hein, quand Bakounine explique que ma liberté ne s'arrête pas là où commence celle des autres, car ma liberté augmente à l'infini celle des autres. Évidemment, la liberté de chacun est la liberté de tous. Van Engem ne cesse de le rappeler. Et alors ça, c'est aussi quelque chose qui est des fois, comme je disais, minoré, c'est la façon dont Raoul Van Engem récupère une partie de l'héritage de l'anarchisme individualiste, qui est un petit peu oublié de nos jours, cette revendication de la liberté absolue du sujet, d'ailleurs du sujet individuel comme du sujet collectif, et qui d'ailleurs met en relation à la fois cet héritage anarchiste individualiste, mais aussi l'héritage fédéraliste du mouvement libertaire, c'est-à-dire que la conception de l'insurrection qu'a Van Engem, c'est la fédération des subjectivités. Il n'y a pas d'opposition entre la revendication de la liberté de l'individu et la construction d'une société égalitaire, évidemment. Pour lui, c'est le même processus. Selon lui, ça commence dès la revendication individuelle. Donc, fédération des subjectivités, on est très proche de toutes les idéologies de la fin du XIXe siècle qui ont amené à la commune, par exemple. Van Engem récupère vraiment cet héritage intellectuel.
Oui, c'est intéressant de rappeler ça, c'est-à-dire que notamment dans son ouvrage De la Grève sauvage à l'autogestion généralisée, Van Hegem décrit assez précisément, c'est là où on pourrait un peu l'accuser d'être un peu programmatiste, même si finalement il donne pas finalement le contenu de la société communiste qu'il envisage reste suffisamment large, puisque tout part des désirs subjectifs, collectifs comme individuels. Il explique bien que ce sont ces désirs qui vont façonner la société post-capitaliste. Donc c'est là où peut-être qu'il faudrait mettre un bémol à l'idée que c'était. En tout cas, c'est un programmatisme très souple, disons un programmatisme des désirs, presque. La manière dont il envisage effectivement l'insurrection elle-même, c'est vraiment la fédération des subjectivités et ces subjectivités qui s'auto-organisent. C'est là le côté un peu formel de Van Hegem, c'est la référence aux conseils ouvriers. Donc c'est l'idée, voilà, que. Mais peut-être que derrière la formule des conseils ouvriers, même si c'est vrai que là où Van Hegem tranche avec beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il dit c'est malgré tout les ouvriers qui ont les moyens de production entre leurs mains, et donc évidemment ils ont un pouvoir que les autres n'ont pas. Globalement, sa perspective reste celui de l'auto-organisation des subjectivités. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est à la fois on se fédère entre différents pôles insurgés ou des communes après le dépassement du capitalisme. Et en même temps, ces subjectivités fédérées, elles discutent et elles ne discutent pas. Et c'est là où Van Hegem fait une critique de la politique comme sphère de l'auto-organisation, enfin de l'organisation séparée en général, et puis peut-être là de l'auto-organisation séparée, c'est qui dit bien que c'est pas on fait des conseils ouvriers à l'usine et à côté on fait rien et la vie quotidienne continue. Mais en fait, ces assemblées d'auto-organisation, elles ont vocation à discuter de tous les problèmes de la vie, à essayer de faire que tout le monde puisse réaliser un maximum de ses désirs. Dans la limite des possibilités, évidemment. Aujourd'hui, des possibilités écologiques, même si lui ne les prend peut-être pas assez en compte, encore qu'il les prend quand même partiellement en compte, mais disons des possibilités matérielles. Et un dernier aspect qui est aussi très intéressant chez Van Hegem, c'est qu'à la fois, il donne une dimension assez importante à l'auto-organisation, à travers sa référence au Conseil ouvrier, et d'un autre côté, il dit très clairement dans l'ouvrage De la Grève sauvage à l'autogestion généralisée, que tout ce qui peut se régler, harmoniser, se passer en termes de transformation des rapports de vie et des rapports sociaux quotidiens en dehors des assemblées, bien sûr, il faut le faire en dehors des assemblées. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus dans un côté formaliste de on va discuter en assemblée de tous nos problèmes, on va les régler en assemblée de tous nos problèmes. Donc là, je trouve que c'est ça là où il est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il est ni dans un formalisme extrême où tout doit passer par des décisions en assemblée. D'ailleurs, il dit bien, les assemblées, elles sont là pour décider des choses de manière exécutoire. Les assemblées qui sont juste là pour discuter, ça ne sert à rien. Lui, il dit, la discussion, ça se fait ailleurs, quoi. Et donc là, il échappe à la fois à un excès de formalisme et en même temps à une idée qu'on pourrait s'en remettre uniquement à une spontanéité. Donc il garde quand même un lieu, non pas séparé, mais un lieu distinct, disons. Où on va prendre certaines décisions que c'est compliqué de prendre dans le reste de la vie quotidienne.
Et oui, ce n'est pas du tout une idéologie assembléiste, puisque, comme l'explique bien Van Hegem dans l'ouvrage, ce qu'il s'agit de libérer, d'émanciper, c'est la vie quotidienne elle-même. Il y a une citation très célèbre qui a été un graffiti en 68. Une bonne partie d'ailleurs des graffitis de 68 les plus connus sont des fois tirés de cet ouvrage, hein, ou d'autres livres de Van Hegem, ne serait-ce que le fameux Vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Mais l'autre citation qui est devenue un graffiti très connu, ceux qui parlent de révolution et de lutte des classes sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans comprendre ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. Donc la séparation de la politique, y compris d'une politique sous la forme de comme tu disais, de l'assembléisme. Bon, c'est sûr que ce n'est pas du tout le projet de Van Hegem. Ce qu'il y a à changer d'une manière immédiate, c'est nos vies. Sur cet aspect-là, c'est l'inscription de la réflexion sur les avant-gardes, le dépassement de l'art qui est présent chez l'Institut, à la fois chez Debord et bien sûr chez Van Eghem. Il ne cesse de le répéter. L'objectif, selon lui, du prochain projet révolutionnaire de la révolution qui est en cours, c'est de construire la vie quotidienne, de réaliser l'histoire. Donc c'est intégrer tout ce que la critique philosophique, tout ce que la critique de l'art a amené comme analyse et remise en cause de l'aliénation sociale, de l'aliénation capitaliste, et le vivre immédiatement dans les existences concrètes des individus.
Et peut-être pour revenir un petit peu en arrière, et je pense que c'est quand même quelque chose qu'on est obligé d'aborder quand on aborde Van Eghem. On a déjà cité quelques phrases, quelques citations assez célèbres de Van Eghem. Nous qui désirons sans fin, vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Et ce sont des citations qui sont régulièrement utilisées par l'extrême droite ou par une certaine gauche conservatrice, voire réactionnaire, qu'on s'emploie régulièrement à sortir du capitalisme à démonter, qui ferait finalement de Van Eghem et plus généralement des situationnistes, à part parfois Debord qui échappe un peu à leur ire, surtout le vieux Debord, un peu bon, qui était un petit peu qui avait un petit peu tourné un peu plus réac que les autres. Et on fait finalement de Van Eghem une espèce de précurseur du néolibéralisme. Presque si on dit oui, finalement les pubs aujourd'hui elles disent ça, vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Et je pense qu'il faudrait répondre à cette critique, et tout d'abord en disant que finalement, toutes ces critiques sont finalement des critiques qui sont elles-mêmes, qui croient elles-mêmes au spectacle. Comme si la publicité réalisait réellement les idées situationnistes de vivre sans temps mort, jouir sans entrave. Or, précisément, ce que la publicité et le spectacle de manière générale ne réalisent pas, et dont elle n'offre que finalement un ersatz ne permet pas de réaliser, c'est justement effectivement de vivre, de jouir et de réaliser ses désirs. La publicité, c'est plutôt comme on l'avait expliqué la publicité et plus généralement le spectacle, comme on l'avait expliqué dans l'émission précédente sur Rack, c'est plutôt partir de la frustration des individus dans cette société et leur faire miroiter une compensation à cette frustration qui n'en sera que reconduite de plus belle.
Là aussi, il suffit de relire Van Eghem. La critique de la récupération marchande des désirs aliénés, elle est déjà dans le livre. C'est-à-dire que dès 67, les situés, Van Eghem en particulier, ont très bien compris qu'il y a une manière de juguler ce désir insurrectionnel, c'est de le détourner, de l'exploiter comme une force de production du capital. Et reprocher aux situationnistes, en gros, d'être soi-disant, les défenseurs...
Libéraux-libertaires.
Ça c'est des positions assez, assez tristes. Parce que c'est de toute façon reprocher à des révolutionnaires d'avoir perdu, c'est-à-dire de ne pas avoir gagné leur révolution, et d'avoir, ou inconsciemment, ou même perversement, volontairement, voulu la réaction. De certaine manière, dire que 68 a produit l'hédonisme capitaliste des années 80, c'est comme reprocher à un révolutionnaire de 1789 la Restauration. En lui disant, vous avez viré Louis XVI pour mettre un nouveau roi, alors qu'il ne voulait pas mettre un nouveau roi. Voilà. C'est aussi absurde. Il y a eu une lutte politique, une révolutionnaire, qui a été perdue. Et puisqu'elle a été perdue, la réaction revient après. Mais ça, c'est vraiment très, 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 très décevant. D'autant plus, tu sais que le concept de libéral-libertaire, c'est un concept...
Un concept hyper critiquable.
Ouais, qui est chez Kluskar. Kluskar, qui était au PCF,
voilà.
Sur des positions très, très problématiques politiquement, Vraiment, c'est un plagiat et de Van Hegem et de Baudrillard, hein, le travail de Kluskar sur le capitalisme et la séduction. L'essence même de cette critique-là, elle est déjà chez ces deux auteurs, elle est chez ces deux auteurs 10-15 ans avant lui.
Sauf qu'elle est du coup reformulée de manière réactionnaire.
Mais oui, c'est une récupération réactionnaire de la théorie et de Van Hegem et de Baudrillard sur la société de consommation, en disant finalement tout ça, c'est la faute.
Aux Américains.
Oui, et la faute à 68.
C'est ça.
C'est la faute à 68. C'est le même genre de position qu'on a retrouvé dans les années 90 avec un Houellebecq. Voilà, bon.
Voilà.
C'est réactionnaire
Ou
au
chez un
possible.
Soral aujourd'hui.
Oui, on n'en parle même pas. Mais c'est toujours voilà, la critique des réactionnaires qui considèrent que finalement, les révolutionnaires voulaient.
La modernisation du capitalisme,
Voilà, c'est
voilà.
ça. Bon, c'est complètement absurde. C'est oublier ce que les gens qui ont lutté, que ce soit par exemple pendant la Révolution française, pendant la Révolution russe, ou dans un autre contexte, évidemment avec une autre situation sociale en 68, tout ce qu'ils ont payé de cet engagement, les gens qui ont eu évidemment leur vie brisée, etc., ou leur vie personnelle, sentimentale, sociale, du fait de leur engagement. Ça a coûté très cher à beaucoup de gens, comme ça a coûté cher à ceux qui sont engagés en Espagne. Voilà. Considérer que ces gens-là qui ont lutté pour ce changement de société voulaient finalement. Comme tu dis, la modernisation du capitalisme, c'est vraiment indécent.
Oui, c'est indécent et en plus c'est complètement faux puisque précisément la critique situationniste est une critique implacable de la société, des sociétés passées. En même temps, une critique implacable de la société des Trente Glorieuses en voie
Bien
de
sûr.
modernisation, du spectacle, de la publicité. Et là où la critique réactionnaire se trompe complètement, c'est d'opposer le bon Guy Debord qui lui avait compris que le spectacle, voilà, récupérer les élans de la jeunesse et tout ça, à Van Hegem qui serait complètement stupide et qui finalement serait allé dans le sens du capitalisme. Alors même que lorsqu'il faisait partie de l'internationale situationniste dans les années 60, après peut-être Debord est plus ambigu, à partir, surtout dans les années 80, mais globalement, ils font une critique implacable, tous les deux, de fausse jouissance, du faux plaisir. Du faux hédonisme de la société capitaliste. Et au contraire, il critique le spectacle comme étant quelque chose qui empêche la réalisation des désirs individuels et collectifs. Et précisément, ce n'est uniquement qu'en abolissant le capitalisme, la société marchande, le spectacle, que ces désirs pourront être réalisés. Donc en fait, ce que Van Hegem dit dans ses textes des années 60-70, c'est exactement l'inverse de ce que de tous ces réactionnaires de tout poil, de gauche ou de droite, lui ont fait dire à partir de quelques citations qui ont pu être récupérées par le capitalisme. Mais on ne va pas accuser non plus Simone de Beauvoir de permettre le renouvellement de certaines marchandises. Tout ça parce qu'on a repris dans une enseigne publicitaire on ne naît pas femme, on le devient chaque jour en achetant des fringues chez
Ah ouais,
machin.
ils ont osé faire ça, j'étais pas au courant.
Voilà, ils ont osé faire ça, effectivement.
Oui, mais même sur Debord, moi je serais peut-être un peu plus mitigé que toi là-dessus, parce que bon, la lecture qu'on fait de soi-disant, une soi-disante lecture réactionnaire de Debord, c'est une falsification entière. C'est surtout que la pensée de Debord a été reconnue, ne serait-ce qu'elle littérairement. Donc aujourd'hui, il est incontournable, il faut se positionner. Et l'extrême droite fait toujours la même chose. Quand elle ne peut ni ignorer ni insulter, elle fait semblant de récupérer. Et bon, elle fait ça sur Debord, comme elle a fait sur d'autres, comme elle l'a fait sur Marx à un moment. Bon.
Oui, elle récupère, disons, ce qui est récupérable, mais elle n'arrive pas à récupérer l'essentiel, effectivement. Je
Oui,
suis d'accord.
et ceux que des fois elle est contrainte de faire semblant de récupérer, on va dire, si tu veux, dans une lutte idéologique contemporaine. Faut voir ce que Debord a pris comme crachat là aussi par les réactionnaires jusqu'aux années 80, y compris. Hein.
Oui, bien sûr.
Donc, là aussi, c'est une vague mode, bon, comme il peut y avoir dans l'extrême droite. Pour revenir un peu plus sur la pensée de Van Hegem dans cet ouvrage. Comme je disais un peu précédemment, cette idée de la fédération des subjectivités et aussi l'enfant, le produit des avant-gardes artistiques, puisque à partir des situationnistes, l'idée centrale, c'est d'ailleurs ça c'est une des thèses de Van Hegem lui-même, hein. L'œuvre d'art à venir, c'est la construction d'une vie passionnante. Donc s'il y a un objectif esthétique encore dans les années 60, si la question de la production sensible a encore un sens, mais c'est la production de la vie elle-même, la révolution de la vie. L'œuvre d'art qu'il s'agit de faire aujourd'hui, c'est la révolution. Ça, c'est un point sur lequel les situationnistes sont tous d'accord et Van Hegem le défend particulièrement dans cet ouvrage. C'est vraiment ce moment très important des années 60 où finalement ce qu'a voulu faire le mouvement révolutionnaire de l'après-guerre jusqu'aux années 30, de 1917 à 1936, et ce qu'a été rêvé au même moment par les dadaïstes et les surréalistes deviennent un projet politique unifié. Ce projet politique, c'est entre autres la révolution de la vie quotidienne qu'appellent les situationnistes qui donne 68. Une révolution de la vie quotidienne qui permettrait la libération de la créativité du sujet, une créativité qui n'est plus exploitée par le capital, comme tu disais précédemment, qui n'est plus réappropriée en fonction du capitalisme, puisque non seulement le capitalisme frustre les désirs de créativité des individus en lui donnant comme seul objectif le fait de produire et de reproduire du capital, donc c'est une créativité évidemment illusoire, hein. Mais ce qui est assez intéressant aussi dans l'ouvrage de Raoul Van Hegem et donc dans la philosophie de Van Hegem, c'est l'idée vraiment de construction de la vie quotidienne, hein. C'est-à-dire que il pense à la fois en très très court de l'insurrection, qu'a pu être comme tentative en tout cas mai 68. Il pense la lutte révolutionnaire dans ce qu'elle pourrait avoir de temps un peu à moyen terme, tel qu'ont pu le vivre les Espagnols insurgés de 36, et les références à l'Espagne est très présente sur cet aspect-là. C'est une sorte d'exemple de révolution concrète, hein, pour eux. Mais il y a aussi l'idée de la construction dans un temps long, hein, de ce que serait une société d'émancipation, une société structurée sur les désirs de chacun et de tous. Ce qui me semble particulièrement intéressant dans la passée de Van Hegem, puisque on n'est ni dans le culte de la rupture politique radicale qui casse l'histoire en deux, ce qui pourrait amener à une sorte de
fin de l'histoire.
Fin de l'histoire ou de fétichisme de l'insurrection.
Le grand soir, l'Uchronie du grand soir.
Oui, ou même un des problèmes qu'on peut trouver dans certains courants de l'insurrectionnalisme aussi. On a envie de dire l'insurrection et après, que faire après? Et en même temps, évidemment, on n'est pas dans la pensée de réformiste, puisque ce qu'est capable de faire la classe ouvrière, selon Van Hegem, c'est un véritable détournement des usines, détournement de l'appareil productif capitaliste, détourné afin de construire la révolution et construire cette société post-révolutionnaire dans le même acte. D'où l'aspect vraiment central, hein, de la classe ouvrière encore pour Van Hegem et aussi pour Debord, ce qui l'éloigne également d'un penseur, je pense qu'on a un peu trop surévalué dans l'influence sur 68, à savoir Marcuse. Marcuse est très pessimiste sur les possibilités révolutionnaires du mouvement ouvrier, peut-être parce qu'il les voit depuis les États-Unis, depuis la Californie, mais depuis la Belgique insurgée et la France qui va pas tarder à se rebeller.
Debord, et sans parler d'Italie.
Sans parler de l'Italie qui arrive peu après. Debord et Van Hegem, vraiment, rappellent la position centrale de la classe ouvrière en tant que classe productive. Elle est à même de faire la critique la plus radicale du travail. Ça, c'est vraiment l'un des, je pense, l'un des aspects qui a aussi sûrement séduit le mouvement de 68 et qui fait que j'ai l'impression que l'importance de Marcus dans le 68 français est peut-être plus là aussi une déformation a posteriori, ce qui évidemment ne réfute pas l'intérêt pour la pensée de Marcus, son importance dans l'histoire évidemment de l'école de Francfort et ce que va devenir la philosophie allemande à partir des années 60-70, mais qui explique aussi peut-être le succès de cet ouvrage pendant la révolte de mai.
Oui, et pour revenir à la question du détournement des moyens de production, c'est amusant que Van Hegem utilise ce concept. Je le trouvais relativement intéressant parce qu'il permet d'éviter le concept de réappropriation, qui est un peu trop positif. Alors même si Van Hegem est un peu ambigu sur la question des moyens de production, il n'est pas complètement encore sorti de, disons, de l'idée que les moyens de production sont relativement neutres et tout ça, ou sont positifs. Et d'un autre côté, il dit bien quand même dans De l'agrès sauvage à l'autogestion généralisée, qu'évidemment, il faut en finir avec l'agriculture chimique, voilà, et avec tout un tas d'autres types d'industries nuisibles. Et donc son concept de détournement me paraît intéressant, même si peut-être que à l'aune d'une critique un peu plus écologiste du capitalisme d'aujourd'hui, et même d'une critique de l'industrie et de la technologie capitaliste, puisque toutes les technologies et l'infrastructure industrielle sont marquées par l'empreinte du capital et ses exigences depuis 2 siècles. Et je renvoie là-dessus à notamment un texte de Bruno Astarin qui s'appelle Activité de crise et communisation, où il répond à cette idée, voilà, qu'on pourrait simplement se réapproprier les moyens de production capitalistes. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en tout cas, dans cette idée de détournement, il y a des choses intéressantes, puisque en fait, je pense que dans ce qui est intéressant avec l'idée de Van Hegem, c'est que je pense qu'il se fait un peu des illusions sur le fait qu'on pourra même détourner des usines automatisées, parce que à mon avis c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas l'idée de détournement est intéressante parce que c'est on verra bien ce qui est détournable. Et des choses qui sont manifestement pas détournables dans l'optique, par exemple on peut pas détourner une centrale nucléaire si l'objectif c'est d'avoir une vie réalisée, une vie pleine et désirante. Ça paraît compliqué de en même temps gérer une centrale nucléaire. Je voulais revenir aussi sur un autre aspect qui me semblait intéressant chez Van Hegem. C'était une critique qu'on a pu lui faire. Je pense que c'est important aussi de répondre un peu aux critiques qu'on peut lui faire. Donc là, on a examiné celle de la technologie, puis avant, celle du libéralisme libertaire et tout ça. Ce serait un peu l'idée, et qu'on trouve un peu chez Debord, où il y a un peu un faux qui s'opposerait à un vrai. Il y aurait un peu la subjectivité authentique qui s'opposerait à la subjectivité aliénée. Moi, je tranche pas trop, j'en suis pas capable de trancher sur à quel point est-ce que ce reproche de vitalisme, de opposition vie bonne, vie mauvaise est valable pour les situationnistes Van Hegem ou Debord. Mais en tout cas, ce qui me semble intéressant dans la critique situationniste, à mon avis, c'est pas tant une opposition d'une vie qui serait essentiellement bonne à une qui s'opposerait à une vie essentiellement mauvaise, mais c'est avant tout une critique de ce que la société capitaliste et la société voilà, de domination sociale nous impose de manière générale, en ce qu'elle limite toutes nos possibilités. Et elle restreint notre existence, effectivement, le fait d'enfiler des rôles, des masques de caractère à tour de rôle, avec tout ce que ça a de frustrant et de répressif. Et les situationnistes contre ça, à mon sens, ne disent pas, eh ben, à cette vie unique, unidimensionnelle, mauvaise, frustrante et qui fait souffrir, il faudrait opposer cette vie qui serait unidimensionnellement bonne. Essentiellement bonne. Ils ne proposent pas de modèle, ils disent simplement, presque, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'existentialisme, mais ça me fait quand même penser à l'idée, justement, que ce qu'il faut permettre, c'est non pas un tel type de désir fait de telle qui se réalise de telle façon, c'est que chaque subjectivité puisse avoir ses désirs propres et puisse les réaliser de manière propre. Et évidemment, le programme des situationnistes, c'est pas d'opposer à la télévision le fait qu'on fasse tous, je sais pas moi, l'amour entre 14h et 14h30.
Ah non, ça c'est révolution culturelle, tu sais. il y avait des plages d'horaires, hein. Quand est-ce que les couples avaient le droit de faire l'amour et quand est-ce qu'ils devaient militer pour le grand timonier.
Ça, voilà, c'est, ça, bah là on a la crédit
coulée. C'est véridique, hein. Non, évidemment pas. Ça, cette opposition entre vie aliénée, vie bonne, en pensant la vie bonne, évidemment, d'une façon unique et unilatérale, bon, là aussi c'est un peu comme ce que je disais pour l'extrême droite. J'aimerais bien qu'on me trouve le passage, tu vois, où c'est dit, parce que c'est évidemment pas dit, puisque la position elle est exactement inverse. Si c'est l'idée de la fédération, des subjectivités désirantes, et l'idée que l'émancipation se fait en même temps par chacun et par tous, reprenant voilà, la fameuse expression de Marx, hein, et d'Engels, dans le manifeste du Parti communiste, là, l'émancipation de chacun est la condition de l'émancipation de tous. Évidemment que ça ne produit pas un système normatif de vie, c'est au contraire de la production de la multiplicité, hein, de chaque sujet produisant d'une façon créative sa particularité. Et cette mise en connexion, en communication de ces particularités fédérées, qui est le phénomène révolutionnaire lui-même. Donc voilà, cette conception, cette lecture normative de la problématique du désir est pour le coup un contresens total.
Oui, en fait, c'est pour ça que l'accusation finalement d'un vitalisme chez Van Hegem, même si c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas complètement à balayer, mais d'un autre côté, il faut bien du coup se mettre d'accord sur ce que ça veut dire que le vitalisme. En tout cas, c'est clairement pas quelque chose qui est de l'ordre du normatif ou de l'essentialisme. C'est vraiment, c'est dire simplement que, effectivement, c'est vitaliste dans le sens de « il faut que la vie puisse s'accomplir, s'épanouir ». Mais là où ce n'est pas vitaliste, c'est précisément qu'on ne donne pas de contenu particulier à cette vie. On dit simplement qu'elle puisse s'épanouir de mille manières possibles. Et finalement, ce n'est même plus la vie, c'est les vies. Les vies de chaque subjectivité qui s'épanouissent de manière différente. Et donc, on est là face à une multiplicité, comme tu l'as bien dit, des désirs, des créativités, des plaisirs, des trajectoires subjectives qui s'opposent complètement au caractère unidimensionnel, et essentialiste de la société actuelle. Puisque dans la société actuelle, finalement, on peut dire que c'est une société hyper essentialiste, c'est-à-dire qu'on doit être travailleur, tatati, tatata, et on doit se conformer à ces essences qui, si elles peuvent changer un peu dans leur contenu, n'en reste pas toujours l'essence de travailleur, même si on peut changer de travail, globalement, c'est toujours de produire des marchandises de manière rentable, etc.
Évidemment que ce que propose Van Hegem, ce n'est pas un culte de la vie. Un culte de la vie, c'est encore un culte, donc c'est encore une église à venir. Non, la pensée du vivant chez Van Hegem, c'est la pensée des déterminations de l'individu, les déterminations qui l'empêchent de s'émanciper. Et si on étudie les déterminations de l'individu, évidemment, on commence à analyser le caractère matériel, vivant, biologique, le fait que les corps qui s'émancipent, ce sont des corps vivants, quoi. Donc, c'est quand il y a une idée de subjectivité radicale à même la vie, c'est l'idée de retrouver en soi ce qui, en soi, est dans le soi individuel et le soi collectif, ce qui est exploité par le capitalisme pour pouvoir l'émanciper. Or, ce sont des corps. Bon, les individus, ce sont avant tout des corps. Il y a une citation que j'aime beaucoup, hein, qui est au début de l'ouvrage, quand il dit « Le parti pris de la vie est un parti pris politique ». Donc c'est vraiment la question de la politisation de nos rapports à la fois affectifs, émotionnels, de notre corporéité, ce qui évidemment touche à la question de l'inscription dans la nature, ouvre aux écologies radicales qui vont apparaître peu après. Là, je pense que c'est vraiment l'un des points particulièrement importants de la pensée de Raoul Van Hegem. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience qui est aussi historiquement marquée par rapport à cette apparition de la société de consommation en France dont on a parlé précédemment, puisqu'il prolonge le parti pris de la vie est un parti pris politique. Nous ne voulons pas d'un monde où la garantie de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. Ce qu'il s'agit de créer, c'est évidemment une société qui dépasse la survie, la simple survie que produit le capitalisme, et la survie notamment des corps qui peuvent être vaguement organisés d'une manière cybernétique. Il y a déjà une critique de la cybernétique hein, chez Van Egem par la société de consommation, mais qui produit concrètement une vie où l'on meurt d'ennui. C'est dépasser la survie pour construire véritablement des vies, et des vies, comme tu dis, qui sont forcément au pluriel, puisque ce sont des fédérations de subjectivités et de groupes et de communes en lutte.
Et d'ailleurs, dans la dernière phrase de son toast aux ouvriers révolutionnaires, qui est la postface à cet ouvrage, d'octobre 1972, Van Egem finit « Pour un monde de jouissance à gagner, nous n'avons à perdre que l'ennui ». Donc il y a une référence au fait que les ouvriers n'ont rien à perdre si ce n'est leur chaîne et qu'ils ont un monde à gagner. Et peut-être qu'on va passer assez rapidement sur cette partie qui est qu'est-ce que concrètement Van Egem appelle par le dépassement de la société marchande. Mais pour y aller très brièvement, il faut quand même dire que même si on peut trouver du point de vue de la communisation, de la critique de la valeur, des choses à redire sur ce que Van Egem disait il y a 50 ans. Globalement, de la grève sauvage à l'autogestion généralisée, Van Egem est très clair sur l'abolition du travail, du salariat, de la propriété privée, de la marchandise, de l'État. Aussi, ça c'est très clair, il n'y a pas de dictature, il y a même du prolétariat, il n'y a pas de transition. On est vraiment sur une société qui est immédiatement communiste libertaire, qui permet à chacun de réaliser d'abord ses besoins élémentaires et dès que c'est possible, ses désirs. Et c'est une société, donc la société à laquelle aspire Van Egem, de manière semi-programmatiste, on va dire, c'est une société qui correspond pleinement à ce qu'on pourrait appeler une société post-capitaliste, une société qui serait sortie du capitalisme. Van Egem ne me semble pas, dans cet ouvrage en tout cas, peut-être que ce n'est pas la théorie du capitalisme et de son dépassement la plus aboutie, mais en tout cas, on ne peut pas le ranger au même rang qu'aujourd'hui Bernard Friot, Lordon ou d'autres anticapitalismes tronqués. Et même s'il faut le relire avec des lunettes critiques.
Et historiques.
Et historiques, voilà. Voilà, il faut aussi prendre conscience que c'est dans un contexte où on n'a pas le recul de 50 ans de théorie communiste et de critique de la valeur. Voilà, ça reste des textes très intéressants encore pour aujourd'hui. Donc, aussi bien le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations que de la grève sauvage à l'autogestion généralisée. Donc, on vous invite, après avoir écouté cette longue émission, à lire ces deux ouvrages, peut-être en commençant par De la grève sauvage à l'autogestion généralisée, ou si vous aimez davantage la littérature que les manifestes politiques, eh ben, commencez par le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, dont nous fêtons, je ne sais pas si ça se fête, mais le 50e anniversaire de sa parution. Et bien donc, merci Pierre-Ulysse Barranque de nous avoir parlé de cet ouvrage et de nous avoir éclairé sur à la fois ce qu'il dit, ce qu'il disait à l'époque, pourquoi est-ce qu'il a été écrit, comment est-ce qu'il a été écrit et comment est-ce qu'il s'insère aujourd'hui, comment est-ce qu'il s'actualise et quelles en sont les mauvaises lectures, puisqu'on en a parlé d'un certain nombre de mauvaises lectures. Voilà, merci.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Nous devons changer partout où il le faut des structures étroites et périmées de l'État et du travail. Nous devons reconstruire la société moderne en fonction des besoins réels, sans travail, sans entreprise, sans l'État. Le peuple français doit déclencher l'immense transformation qu'il veut.